Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, je suis dans l'émission Tourne-Page avec Marie-Lise.
Bonjour.
Et nous vous proposons un livre. Alors, il est très gros, je vais vous dire, le nombre de pages. 678 et un peu plus même. Mais il est à la fois très gros, très léger. C'est à la fois un roman et c'est à la fois aussi un monument de sociologie. Mais ça se lit très facilement.
Oui, et puis on peut dire aussi que pour les plus jeunes, ça sera une plongée dans mai 68 et la suite. Et pour les plus vieux, c'est « Ah oui, c'était comme ça !» Ça, c'est nostalgie, nostalgie ou pas. Hein.
Voilà, alors de quoi s'agit-il? Quatre compères, Paul, Rodolphe, Benoît et Tanguy, sont élèves de lycée et vont passer le bac. Et puis, nous sommes l'année 81, donc 10 mai 81, la France bascule à gauche. Et bien évidemment, pour ces jeunes qui ont grandi avec la droite, et bien voilà, tous les rêves sont permis. À la fois les rêves pour le pays, et puis leurs rêves individuels. Et puis nous nous retrouvons à la fin du livre, encore dans une période politique, et là c'est François Hollande. Là aussi, est-ce que tous les espoirs sont permis? Est-ce qu'ils ont été déçus? En tout cas, c'est tout à fait intéressant de voir le parcours de ces jeunes, puisque nous les prenons quand ils ont 17-18 ans, et puis 30 ans après, eh bien, ils ont la cinquantaine, voilà. Et puis, il y a leur parcours, leur vie, avec les échecs, les réussites, les amours, les parcours
rêves,
de vie.
Les rêves.
Les rêves aussi.
C'est pour ça que je parlais de 68, parce qu'en fait, il y a cette espèce de fantôme comme ça, de tout ce qui a été vécu et tout ce que ça véhicule d'attente.
Alors, ce que ça a véhiculé d'attente, mais je crois aussi qu'on est passé vraiment d'une époque à une autre. On est passé d'une époque où les personnes étaient éduquées de façon très, très stricte à une période où, justement, comme ils étaient éduqués de façon très stricte, retour de balancier, plus d'exigence du tout. Et puis aujourd'hui, tout le monde pleure après les règles. Comment encadrer le cadre?
Ah, mais éducation, c'était un gros mot, hein? Presque.
Eh bien, hélas. Peut-être, en effet. Alors, les personnages. Alors, les personnages sont aussi, non pas des caricatures, mais des gens qui sont bien typés et qui renvoient à des expériences réelles. Alors, tous les quatre passent leur bac, tous les quatre sont reçus. Paul, Rodolphe, Tanguy et Benoît.
Moi, c'est Paul, mon préféré.
Alors, parlons de Paul.
C'est le narrateur, c'est qui a une éducation très dure... Un père très exigeant, jamais content, une mère qui se tait, un petit frère dont on aurait pu espérer une espèce de complicité, et qui se trouve quelqu'un qui aime... Depuis qu'il est tout petit, c'est comme ça, il aime l'argent, il se débrouille, il a le sens des affaires. Et du coup, ce pauvre Paul se retrouve très seul, outre le fait qu'en plus il est homosexuel et que c'est pas si facile, surtout dans cette famille-là. Donc, c'est celui qui raconte, mais en fait, c'est celui qui vit dans un grand silence et dans une grande souffrance.
Mais qui trouve au long de son parcours, tout de même, des alliés improbables, parce que cette
oui.
Logeuse... Enfin, son père le confie à une logeuse qui, justement, va prendre son parti, va lui permettre, finalement, d'être un peu un paravent. Alors, on voit que ses études de médecine, bon, évidemment, il tourne de l'œil la première fois qu'il voit un Maccabée. Et puis, finalement, son apprentissage de la comédie est quand même laborieux, 70 fois la même séquence de mémoire.
Mais je trouve qu'il est à la fois très sensible et très courageux. Il a une forme de courage qui n'est pas apparente, mais qui me plaît bien. Hein. Il serre les dents, il avance quand même, parce que c'est pas si facile d'être né dans la famille dans laquelle il est né.
Alors, ça, c'est Paul. Il y a aussi Rodolphe. Alors, Rodolphe, il est dans un milieu... peu aisé, son papa est communiste, alors évidemment, pour faire la nique à son papa, eh bien lui, il n'est que socialiste. Alors vous imaginez un peu, c'est quand on est très proche qu'on se bagarre, quand on est très éloigné, finalement, on ne se rencontre pas. Donc Rodolphe, qui est intéressé par la politique dès son jeune âge, et puis on va le voir progresser justement dans ce monde de la politique, en y associant quelquefois l'alliance matrimoniale qui fait qu'il entre... plus facilement aussi dans le monde de l'argent, et vous voyez ce que ça donne, l'argent et la politique. Eh bien, le livre est criant de vérité. On se dit, mais voyons, à qui ça correspond? Et puis, comme en plus François Roux nous parle des personnages d'aujourd'hui, et on évoque tour à tour les Cambadélis, les Mitterrand, les Hollande, mais bon, des hommes politiques contemporains, et on voit très bien se dessiner ces affaires. Alors, nous avons parlé de Rodolphe, nous avons parlé de Paul. Alors, il y a Tanguy. Tanguy, eh bien, nous sommes dans la petite PME. Alors, on fête le bac du jeune, et puis ce jeune qui est dans le commerce, famille oblige, mais qui va évidemment ouvrir les cadres dans lesquels il fait son commerce. Donc, il ne reste pas dans la petite entreprise où il est son propre patron, mais il va aller école de commerce. Alors, avec aussi tout ce que ça représente de choses loufoques pour le concours, eh bien, on va lui proposer de faire... Vous savez, la sexualité des pots de yaourt. Alors, eh bien, comme il est beau parleur, il a eu 15. Donc, bon, la rencontre avec Tapie.
Parce qu'en fait, il y a aussi ça, le mythe du grand oral qu'on retrouve avec beaucoup d'humour là. Et puis, il faut dire quand même que Tanguy, je trouve que le fond familial compte beaucoup. Il n'y a pas de père, si je me rappelle bien, le père est mort.
Oui,
et donc il vit avec sa mère et ses sœurs. Et donc, il y a une attente de la part de toutes ces femmes qui pèse énormément.
Mais il leur échappe, puisqu'il va dans la grande entreprise.
Mais n'empêche,
il retournera d'ailleurs.
C'est toujours là. On peut toujours dire qu'on s'échappe, on ne s'échappe jamais finalement. Ça aussi, c'est très intéressant. Dans ce roman, jamais on nous dit, mais finalement, il a cru qu'il avait la liberté, mais il ne l'a jamais eue. Mais on est assez grand pour trouver tout seul que non, il n'a jamais eu la liberté.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale et puis continuer les portraits de nos personnages. Alors, nous évoquions les personnages. Nous sommes dans le roman de François Roux, Le Bonheur National Brut. C'est un roman édité chez Albin Michel. Nous évoquions les personnages et nous évoquions Tanguy. Alors, Tanguy, il a fait l'école de commerce, mais après, il entre comme adjoint et puis ensuite, il monte dans l'échelle de la responsabilité commerciale. Et à un moment donné, il devient véritablement... le chef, le manager, celui qui doit réussir et qui doit aussi, dans certains cas, éliminer les collègues. Et là, eh bien, il a demandé un entretien avec Tanguy. C'est Ludo. Ludo Gaillard portait vraiment mal son nom. Un grand blond rabougri et sans éclat qui, malgré son âge, souffrait d'une calvitie déjà bien consommée. Il s'avança vers le bureau de Tanguy avec un douloureux mélange de soumission, de colère muette et d'incompréhension. Et puis, bon, tu n'es pas content de moi. Et puis, il est viré. Et j'ai ici ton évaluation de février dernier, Ludo. Tu sais ce qu'elle contient, n'est-ce pas? Ton N plus 1 a estimé que ta performance était entre low et medium et que ton potentiel était de 1, ce qui ne devrait pas être un scoop pour toi, puisque cette évaluation, vous l'avez faite ensemble. Voilà. Donc, on a cette évaluation. Et puis, tu n'as pas la fibre. La fibre de quoi? La fibre du luxe. Tu ne sais pas vendre du luxe. Un parfum, Ludo, ce n'est pas un produit comme un autre. D'ailleurs, un parfum n'est pas un produit tout court. C'est un imaginaire, un fantasme. Un parfum, ça doit faire rêver. Et puis, allons plus loin. Tanguy, il est arrivé un truc atroce. Ludovic Gaillard vient de se jeter par la fenêtre de son bureau. C'est le bordel, Tanguy, le vrai bordel, je t'assure. Les flics sont là, les pompiers sont là, il faut qu'on fasse quelque chose. Eh bien, on a l'impression qu'on se retrouve dans la vie quotidienne, la vie courante. Mais c'est plus que ça, parce que vous avez peut-être remarqué que le portrait du Ludovic en question correspondait à celui qui, justement, allait être battu. Il portait sur son visage, dans son comportement, en tout cas celui que lui donne l'auteur, ce visage de battu.
C'est une vraie caricature, enfin, même pas d'ailleurs malheureusement, de ce que peut être la vie dans une entreprise. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a tous les mots anglais qui vont pointer dans le dialogue. Et ça, c'est maintenant, c'est comme ça. Il y a un langage international qui devient un langage français. On emploie des termes anglais, ça met à la fois de la distance, ça déshumanise, et ça permet d'être encore plus cruel. Et le responsable, le supérieur devient le N+1. Enfin, c'est épouvantable tout ça.
Et songeons aussi que ce manager lui-même est soumis à la pression des financiers. Donc, mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir dans le roman. Et puis, il y a Benoît, dont on n'a pas parlé. Alors, Benoît, c'est celui qui, après avoir son bac, finalement, dit aux copains, « Eh bien, moi, j'ai trouvé un job à Ouest-France et je vais travailler. » Mais c'est assez intéressant parce que, dans son travail à Ouest-France, par exemple, je me souviens de ce passage où il doit faire un reportage et puis des photographies. Et lorsqu'il amène ses photographies, son chef de service lui dit « Mais enfin, je t'ai demandé des photographies, pas un truc d'artiste. Tu es photographe et pas artiste. »
Alors que lui, il est artiste.
Voilà, donc là. Et alors, au travers de tous ces personnages, bien sûr, il y a toutes leurs relations. Leurs relations dans le monde étudiant, leurs relations politiques, leurs relations familiales. Et puis le retour vers leurs parents. C'est assez émouvant. Dans certains cas, la maman de Paul, lorsqu'elle devient veuve et qu'elle retrouve son fils, je trouve qu'elle paraît, elle qui était soumise, on a l'impression qu'il y a quelque chose que son veuvage l'a libérée. C'est quand même effarant.
Ça arrive souvent, ça. Faut pas dire ça, peut-être les choses comme ça, mais moi, j'en connais plein, plein. Des femmes dont on se disait, mais elle va même pas savoir faire un chèque, elle va rien savoir faire. Et puis on s'aperçoit que ces femmes qui n'ont pas ouvert le bec pendant tant d'années, finalement, elles n'ouvraient pas le bec parce qu'avec le mari qu'elles avaient, elles pouvaient pas. Et puis, d'un seul coup, non seulement elles se sentent libres, mais en plus, elles sont capables.
Alors, on retrouve ces personnages au cours de leur vie. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ceux qui nous apparaissent le plus... Nous sommes dans une ville près de l'océan, donc la mer est présente, l'océan est présent. C'est un lieu où on vient se ressourcer, où les uns et les autres, à leur manière, se ressourcent, y compris celui qui va être victime de cette même mer. Et cette mer omniprésente, qui est le lieu de leur ressourcement, ben, il s'y retrouve à mi-parcours, si j'ose dire. Et puis, 30 ans après, hein, le soir de l'élection de Hollande. Et on les retrouve aussi ayant fait un paquet d'expériences, leurs destins se croisent. Et il y a là toute une manière aussi de camper des lieux. Camper les lieux. Et alors, Nous allons aller avec Benoît. Il n'y avait pas grand monde pour contrarier le désir de Benoît Messager de faire exactement ce qu'il avait en tête. Camille et Thomas essayèrent bien de protester. On aurait dit 2 minuscules % s'ébouant dans toutes les directions. Mais Juliette crut utile de rappeler à leur connaissance que par contrat, c'était Benoît, c'est-à-dire l'artiste. Benoît le photographe, est devenu artiste. Benoît seul qui décidait des clichés à leur fournir. Une sorte d'équivalent photographique du Final Cut cinéma, en vertu duquel le réalisateur a un droit absolu sur le montage de son œuvre. Ainsi, en un clin d'œil, le canapé disparut, et Kelly se retrouva assise sur un tabouret haut, les deux mains en appui sur le capot d'un factice géant d'un flacon qu'un machiniste débrouillard avait fermement assujetti à un trépied métallique. Eh bien, on a, comme cela, des descriptions humoristiques de lieux où, ici, il s'agit d'une séquence pour faire la publicité pour un parfum.
Ça s'appelle un shooting, hein, maintenant. Oula, attention, hein.
Il y a de multiples descriptions et vous vous dites, mais c'est véritablement la réalité. En tout cas, c'est un livre amusant qui tient à la fois de la sociologie et du roman. Et puis, quand on y entre, eh bien, on ne lâche pas.
C'est émouvant aussi, c'est les deux, je trouve.
François Roux, Le Bonheur National Brut. C'est édité chez Albin Michel et ça coûte 22 euros. Voilà. Bonne lecture et bonne semaine à tous.
Au revoir.